Bonjour à tous. On a parlé de nos imperfections, et au rang de nos imperfections, et là je m'associe aux autres intervenants, aux autres orateurs, il y a le fait que, bon, vous le savez maintenant, nous avons décidé d'étudier les psaumes cette année. Il y en a 150, donc on aurait pu imaginer que il n'y aurait pas deux orateurs qui choisiraient le même. C'est bien mal nous connaître, puisque effectivement on a été confronté à cette difficulté liée au fait que il y a quelques mois de ça, Luc et moi avions préparé le même psaume, avions étudié le même psaume. Alors évidemment j'ai laissé Luc faire sa prestation. C'est le psaume 34. Et moi, j'ai ravalé mon compliment, pas pour longtemps, vous vous en doutez. La preuve, c'est que ce matin, je vais aussi parler du psaume 34. Alors, évidemment pas pour redire ce qu'a dit Luc, et il l'a fait très bien, mais dans la mesure où cette malchance peut être transformée en un avantage, ça va me permettre de, puisque Luc a étudié la totalité du psaume, ça va me permettre de m'attacher à un point. Alors je sais bien que la grande théorie, c'est qu'on ne doit pas prêcher sur un seul verset, mais à un point qui me paraît essentiel dans ce psaume. Et évidemment, quand on étudie la totalité du psaume, on peut pas s'arrêter longuement à chaque verset. Donc moi, du coup, je vais me permettre de le faire. Alors je vais lire le psaume 34 dans ma Bible, mais j'ai demandé à José de l'afficher. Alors, de l'afficher dans la version Darby, hein, on est bien d'accord. Pourquoi la version Darby? Parce que c'est celle qui colle au plus près du texte hébreu. C'est la plus littérale dans sa traduction. Mais moi, je vais, alors, désolé pour l'exercice, mais je vais lire dans ma Bible, c'est-à-dire la Tob, et après, je m'arrêterai au détail de la traduction. Donc, psaume de David. Quand il se déprécia aux yeux d'Abimélec, qui le chassa, et David s'en alla. Donc ça, c'est l'introduction. Luc en a parlé, donc je n'y reviens pas, en tout cas pas longuement, mais vous vous souvenez que, pour sauver sa peau, David a été amené à simuler la folie, mais simuler la folie, la folie totale, c'est-à-dire au point de se baver sur la barbe, de simuler des convulsions d'hystérie, pour que Abimélec, donc, qui en voulait à sa vie, se dise mais ce type n'est absolument pas dangereux. C'est pas du tout celui dont on m'avait parlé en disant c'est un type terrible, puisque vous savez que David s'était fait une réputation de guerrier redoutable, puisque quand il était allé à la guerre avec Saül, qui était le roi à l'époque, et David évidemment, tout le monde le sait, prendra la place de Saül, mais vous savez que quand ils étaient revenus de la guerre ensemble, les filles et les femmes étaient sorties en dansant et en chantant pour fêter la victoire. Donc c'était un triomphe. Hein. C'est, faut imaginer la descente des Champs-Élysées à la Libération. C'est à peu près à ça que ça ressemblait. Et les femmes dansaient et chantaient. Et quand Saül, donc le roi, qui était en tête du cortège, a écouté la parole du chant, ça l'a un peu contrarié, parce que les paroles du chant, c'était Saül en a tué 1000 et David en a tué 10 000. Autrement dit, David est 10 fois plus puissant que le roi sur un champ de bataille. Donc ça a scellé l'animosité, c'est le moins qu'on puisse dire, de Saül à l'égard de David, et ça a obligé David à fuir et à se retrouver là, en l'occurrence, dans le royaume d'Abimélec, qui voulait lui faire un sort, et pour éviter d'être tué par Abimélec, David donc simule la folie. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais faire le fou, alors encore une fois, je ne veux pas insister longuement parce que Luc l'a fait, ça met un sacré coup à l'amour propre. C'est-à-dire que quand on a une réputation de guerrier quasiment invincible, faire le cinglé pour sauver sa peau, ça n'a rien de glorieux, et on n'en sort pas indemne de cet épisode de simulation de la folie. Et donc, dans cette occasion, David écrit ce psaume, dont je dis au passage que, alors, c'est un psaume alphabétique, c'est-à-dire que chaque phrase en hébreu, bien sûr, hein, chaque phrase en hébreu commence par une lettre de l'alphabet. Donc, vous avez l'alphabet hébreu si vous prenez chaque première lettre de chaque phrase. Ça a quoi comme conséquence ? Ça a comme conséquence que tous ceux qui parlent hébreu connaissent ce texte par cœur. C'est l'équivalent, les psaumes alphabétiques, c'est l'équivalent des fables de La Fontaine chez nous. Ça veut dire aussi que quand on dit à un Français « la raison du plus fort est toujours la meilleure », ça projette immédiatement dans son cerveau toute la fable de La Fontaine, et donc il en sait beaucoup plus que ce qu'on en dit. Là, c'est pareil, ce psaume 34 est abondamment cité dans le Nouveau Testament, notamment par Pierre, et en fait, à chaque fois qu'on dit une phrase de ce psaume, ça renvoie à tout le psaume que forcément on connaît par cœur. Est-ce qu'il y a des anciens scouts parmi vous ? Non ? Bon, je suis le seul. Très bien. Quand on est scout, on apprend une chanson qui s'appelle l'alphabet scout, et parce que c'est une chanson alphabétique, alors l'alphabet est à la fin et pas au début, mais on ne l'oublie jamais. On l'a entendu une fois, on la connaît par cœur. Un jour, la troupe campa, la pluie se mit à tomber, l'orage à tout cas... Bon, c'est bien, vous suivez. Failli nous inonder, je peux vous la décliner comme ça, une fois, et ça suffit. Un psaume alphabétique, c'est pareil. Il faut s'imaginer que Paul, Pierre, enfin tous les apôtres, enfin tous les personnages du Nouveau Testament, et aussi de l'Ancien d'ailleurs, connaissaient ça par cœur. Bien, je vais le lire. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse dans ma bouche. Je suis fier du Seigneur. Que les humbles se réjouissent en m'écoutant, magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux et leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a appelé, le Seigneur l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme dont il est le refuge. Craignez le Seigneur, vous qui l'a consacré, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions connaissent le besoin et la faim, mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Fils, venez m'écouter. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quelqu'un aime-t-il la vie ? Veut-on voir des jours heureux ? Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances. Évite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la. Le Seigneur a les yeux sur les justes et l'oreille attentive à leurs cris. Le Seigneur affronte les malfaisants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Il crie, le Seigneur entend, et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est près des cœurs brisés, et il sauve les esprits abattus. Le juste a beaucoup de malheurs, mais à chaque fois le Seigneur le délivre. Il veille sur tous ses os, pas un d'entre eux n'a été brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste seront punis. Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs. Aucun de ceux qui l'ont pour refuge ne sera puni. Alors, si on peut remonter au début du psaume, le verset auquel je vais m'attacher et que je vais étudier plus particulièrement, c'est le verset 3. Qui est traduit ici par, alors je suis pas d'accord avec, en toute modestie, je suis pas d'accord avec cette traduction, je vais vous dire pourquoi. La Tob dit « Je suis fier du Seigneur, que les humbles se réjouissent en m'écoutant ». Là, on dit « Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront et se réjouiront ». Sacré Darby. C'est compliqué à traduire. En hébreu, enfin l'hébreu dit en Yahweh, mon âme s'illuminera. Alors c'est très joli comme ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une expression dont il faut bien connaître le sens. C'est parce que c'est essentiel et parce que c'est une notion clé du mécanisme intellectuel hébraïque. C'est alors C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le « je suis fier du Seigneur ». C'est s'il fallait traduire comme ça, il faudrait traduire « je suis fier dans le Seigneur ». C'est pas « je suis pas fier de lui », je suis fier de moi en lui. C'est lui qui fait ma fierté. C'est encore une fois une notion clé parce que ça parle de ce qui structure notre personnalité. C'est sur quoi je me fonde, quels sont les piliers de mon existence. C'est ça que ça veut dire. La fierté ou la gloire. Parce que après, c'est une notion qui va être évidemment traduite en grec dans le Nouveau Testament et ça va être traduit en grec par en quoi je me glorifie. De quoi je suis fier, ou bien ça va être traduit par « où est-ce que je place mon orgueil ?» Et c'est parce que le verset est fabriqué dans le contraste, puisqu'il y a en fait deux sortes. Je vous fais une parenthèse sur la poésie hébraïque. La poésie hébraïque, elle a, sur le plan formel, soit elle joue des similitudes, par exemple... entre les deux membres de la phrase, donc le verset 2 par exemple, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse dans ma bouche », c'est deux phrases qui disent la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Vous avez ça aussi au verset 14, « Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances », ça dit la même chose, mais en changeant les mots. Donc ça, c'est une façon de faire de la poésie en hébreu, ou bien alors vous avez... la formule des contrastes, c'est-à-dire par exemple, alors le verset 11, les lions connaissent le besoin et la faim, mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur, ou bien le verset 20, le juste a beaucoup de malheur, mais à chaque fois le Seigneur le délivre. C'est-à-dire que là, on a deux membres de phrase qui disent une chose et non pas son contraire, mais qui fait la différence marquée entre deux situations. Donc là, dans le verset qui m'intéresse, on a évidemment un contraste entre, traduisons-le comme ça, « je suis fier » et puis « les humbles », c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette fierté. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, parce que mon âme se glorifie en l'Éternel. Bon, alors déjà, c'est mieux que dans ma traduction, parce que c'est « en lui ». Et c'est ça qui est important. Mon âme se glorifie en lui. Mais encore une fois, ça va beaucoup plus loin que cette formulation, et ça pose vraiment la question sur quoi je me repose. Alors, de quoi je suis fier, c'est un peu court, mais qu'est-ce qui fait le fondement de ma personnalité? Et je suis absolument ravi qu'on ait chanté. Le dernier chant qu'on a chanté, parce que c'est exactement de ça que ça parle, puisque le dernier chant, vous vous en souvenez, c'est tiré de la formule de Paul. Alors, c'est dans la lettre aux Philippiens, puisqu'en fait, ça c'est la vraie question, et c'est une question pour nous aussi. C'est-à-dire que, de la même manière que David, il a de bonnes raisons de pouvoir se vanter, de pouvoir être fier de lui-même. Il a quand même gagné. Enfin, il a vaincu Goliath dans les circonstances que vous savez. Il a quand même gagné des guerres, ce garçon. Et donc, il a une carte de visite qui peut donner envie. Et là, quand il dit je suis fier dans le Seigneur, ça veut dire. Ça sera exactement la même démarche intellectuelle que pour Paul. Ce que je suis capable de faire, ce que j'ai fait, mes exploits en quelque sorte, ma carte de visite, poubelle. Moi, si mon existence est fondée sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un, c'est sur Dieu. Et Paul dira exactement la même chose. Donc c'est dans Philippiens chapitre 3. Versets 3 à 9, donc il dit « Les circoncis, c'est nous », et il le dit à des Philippiens, hein, qu'ils ne sont pas, pour le coup, circoncis. Pas physiquement circoncis. « Les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ. » Alors, Placer sa gloire, c'est la version grecque de je suis fier. C'est la même formulation, hein, mais en grec cette fois. Donc, qui plaçons notre gloire en Jésus-Christ, qui ne nous confions pas, donc c'est toujours le même verbe, en nous-mêmes. Pourtant, et là, c'est Paul dans toute sa. Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Donc, encore une fois, c'est toujours le même mot, hein, toujours le même concept. C'est sur quoi ma personnalité est fondée, sur quoi ma personnalité est structurée. J'ai des raisons d'avoir confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenu irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, je les ai considérées comme une perte. Et là, le mot grec qui est traduit par perte, c'est littéralement les choses qui vont à la poubelle. Je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est une perte, donc un déchet, en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout cela comme des ordures, toujours le même mot, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une justice à moi qui vient de la loi, mais avec celle qui vient de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Là, c'est Paul qui parle. Et Paul, sur ce terrain-là, c'est pas rien. Alors David, évidemment, c'est le grand guerrier, conquérant, machin. Paul, et il va en parler, justement pour en parler à contrario, j'allais dire que sur le terrain de qu'est-ce qui structure ma personnalité et qu'est-ce qui fonde ma fierté et mon orgueil, j'allais dire, Paul, il est imbattable parce qu'il a gagné sur tous les tableaux. Alors les tableaux, il y en a plusieurs. Il y a la religion. Et la religion, s'il y en a bien qui sont fiers de leur religion, dans l'Empire romain, puisque c'est à l'époque c'est l'Empire, ceux qui sont sans doute les plus fiers de leur religion dans l'Empire romain, c'est les Juifs. Parce que ils se considèrent, alors pour le coup à juste titre, comme supérieurs, parce que ils croient en un seul Dieu, alors que tous les autres autour, que ce soit les Grecs ou les Romains, et j'allais dire par contagion, à peu près tous les autres, sont dans un polythéisme varié, mais plus ou moins universel. Donc, eux, ils sont fiers de ça. Et si on veut décliner, parmi les Juifs, il y en a qui sont encore plus fiers que les autres. C'est les Pharisiens. Et voilà. Et Paul, lui, il a sur ce plan, il a tout gagné. Il le dit d'ailleurs. Il dit, moi, je suis Juif, circoncis au moment où il fallait être circoncis. Je suis Pharisien, etc. Bon. Donc sur le plan religieux, il a de quoi être fier, il a de quoi largement bomber le torse. Après, le deuxième positionnement, il est social, c'est-à-dire d'où on sort et qui on est. Et enfin, vous connaissez tous ces textes, je vais pas citer le texte à chaque fois. Quand Paul parle de quand on lui demande d'où il sort, il dit je viens de Tarse. Alors aujourd'hui, si on traduisait, on dirait qui est une ville universitaire bien connue, c'est à ça que ça revient, c'est-à-dire que Tarse, c'est un centre intellectuel de renom. Et donc, ça veut dire qu'il a une maîtrise parfaite de la culture grecque, parce que si le monde est dominé par Rome, j'allais dire militairement, il est intellectuellement dominé par la Grèce, c'est-à-dire qu'il maîtrise parfaitement d'abord la langue grecque et la pensée grecque, et il le démontre à longueur de page, puisqu'il cite les poètes grecs dans le texte. Bon. Donc là, c'est pareil. Personne ne peut le regarder de haut. Et puis le troisième positionnement social dont on parle peu, mais qui a une importance à l'époque considérable, c'est la citoyenneté. Parce que Rome domine tout et tout le monde militairement, mais pour autant, tout le monde n'est pas citoyen romain. Le privilège de la citoyenneté romaine s'est distribué au compte-gouttes. Et parce que la Déclaration des droits de l'homme, comme vous le savez, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ça vient beaucoup plus tard. Et à cette époque-là, les hommes ne naissent pas et ne demeurent pas libres et égaux en droit. On n'a pas les mêmes droits selon qu'on a ou pas la citoyenneté romaine. Pour vous donner un élément de comparaison, qui vaut ce qui vaut, c'est que, malgré d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme, quand vous êtes en France, étranger en situation irrégulière, ou étranger en situation régulière, ou français, vous n'avez pas le même statut juridique, et vous n'avez du coup pas la même vie du tout. Là, c'est pareil. Et Paul, là encore, il a tout gagné dans ce domaine, puisque non seulement il est citoyen romain, mais il est de naissance. Et donc, vous savez que lors d'un de ses procès, parce qu'il en a, plusieurs, il se retrouve face à quelqu'un qui lui dit « Ah bon, t'es citoyen ?» Alors déjà, il y a, je crois que c'est à Philippe, de mémoire, mais vous connaissez l'histoire de la bavure policière, c'est-à-dire que il a oublié, ou il l'a peut-être pas dit assez fort, qu'il était citoyen romain, parce que les citoyens romains, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de leur faire. Et donc l'équivalent de la garde à vue aujourd'hui, mais sauf que c'est une garde à vue où on prend des coups. Hein. Donc lui, il a subi ça, et donc y a un moment où il dit un peu plus fort « mais je suis citoyen romain », et là, panique dans le commissariat de police, on a fait une bavure parce que on a passé à tabac un citoyen romain, ce qui est évidemment interdit, donc relâchez-le tout de suite, et vous savez que Paul, qui est quand même... Enfin, qui a une certaine fierté quand même, dit « Ah non, mais il est hors de question de nous relâcher comme ça en catimini en effaçant la bavure. Vous allez demander au chef de la garde de venir s'excuser, et quand j'aurai entendu ses excuses, on sortira de prison. Bon, » ce qui est quand même paradoxal, et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on vient s'excuser en disant « Excusez-nous, on ne savait pas que vous étiez citoyen romain, sinon on ne vous aurait pas tabassé. Bon, ça va, mais recommencez pas. » Et donc, ça, la fois d'après, ça a failli se reproduire, mais sauf que là, il a dit, il avait compris. Donc là, il a dit, attendez, moi, je suis citoyen romain, donc pas de passage à tabac. Effectivement, bon, alors, c'est décliné comme ça. Il y a beaucoup au fil des textes, il y a beaucoup de conséquences. Par exemple, enfin, je ne vais pas vous faire un cours de droit romain, mais quand on est citoyen romain, on a le droit de faire appel devant l'empereur, ce que les autres évidemment n'ont pas. Donc Paul va se retrouver devant l'empereur de Rome dans le cadre d'un procès parce que, en tant que citoyen romain, il aurait eu le droit de faire appel devant l'empereur. Bon, tout ça pour dire que, sur sa carte de visite, zéro faute. Hein. Donc il peut être fier de sa religion, il peut être fier de sa culture, il peut être fier de sa citoyenneté. Et de tout ça, il dit « ça, poubelle ». Moi, je suis pas fier de ça. Non seulement je suis pas fier, enfin... C'est pas mon sujet de fierté, mais c'est pas là-dessus c'est pas le socle de ma vie, c'est pas là-dessus que je fonde mon existence. C'est pas, et encore une fois, c'est un concept important parce que pour un juif dans la mentalité juive, savoir sur quoi on est fondé, c'est à longueur de page dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il y a des généalogies plein de la Bible. C'est que c'est pas indifférent de savoir sur quel socle notre vie est posée. Et Paul, comme David dans le psaume, dira « Moi, ma vie, elle est posée sur Dieu. » Et je nous pose la question, vous me voyez venir en 4 mètres sur 3, évidemment, mais je me la pose à moi. Donc je vais pas dire qu'en est-il de nous, je vais dire qu'en est-il de moi. Je vois ici que des gens, même si vous n'en êtes pas forcément conscient, mais que des gens qui ont, dans un domaine ou l'autre, des sujets de fierté. Des sujets de fierté sur le plan professionnel. Je sais pas, quand on invente un logiciel qui permet de compter les avions qui auraient décollé si Air France faisait pas grève, bon, y a de quoi être fier. Surtout quand on gagne un concours avec ça. Je ne vais pas faire le catalogue de toutes les réussites professionnelles qu'il y a sous mes yeux, mais il y en a parmi nous qui légitimement peuvent se dire ben, ma vie professionnelle elle n'est pas complètement ratée. Je suis quelqu'un de reconnu. J'ai fait ma place. D'autres, ça va être sur le terrain familial. J'ai une famille avec des beaux enfants, enfin c'est aussi une fierté, où j'ai réussi financièrement, j'ai réussi socialement, je fais partie de 25 associations où on considère que je suis indispensable, bref. Et donc tout ça, ça pourrait légitimement, je dis bien légitimement, faire non seulement notre sujet de fierté. Alors j'aime pas le mot orgueil parce qu'il est souvent traduit par orgueil. Dans quoi est-ce qu'on met notre orgueil? L'orgueil c'est connoté négativement. Mais disons une légitime fierté serait non seulement permise mais serait bienvenue. Je suis pas n'importe qui ni n'importe quoi. Et quand je regarde quelqu'un, eh ben je ne baisse pas les yeux parce que j'ai moi aussi de bonnes raisons de regarder les gens droit dans les yeux. C'est ce que David aurait pu dire, c'est ce que Paul aurait pu dire, et pourtant, à l'unisson, il dit ça, ça, non merci, non merci. Qu'en est-il de moi? Est-ce que c'est Dieu et Dieu seul qui est ma fierté dans ce sens que je viens de définir? J'insiste sur le cas de Paul, parce que quand il dit, et il finit par en arriver là, il finit par en arriver à cette... ça vient pas tout seul, hein, c'est pas un claquement de doigts, effectivement, t'as raison, donc je décide qu'à partir de maintenant, plus rien de ce qui faisait ma fierté ne me rend prétentieux, enfin, même pas seulement prétentieux, mais ne me rend fier. Et donc, ma fierté, elle est en Dieu, c'est entendu, merci, au revoir. Ça ne se décrète pas aussi facilement que ça. C'est que ça nous imprègne. Le socle de notre vie, il nous détermine, au sens, alors je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est pas indifférent sur la manière dont on se comporte. Restons sur l'exemple de Paul. Paul, du temps où il était fier de sa carte de visite, et je vous ai donné toute une partie des raisons qu'il avait d'en être fier, c'était déterminant de son comportement, par exemple, et c'est l'exemple le plus emblématique, dans le fait que, évidemment, citoyen romain de culture grecque, et surtout juif, pharisien, circoncis, etc., ben, le Messie, le fameux Messie tout le peuple attend, moi, Paul, enfin Paul, pas Paul à l'époque, Shaoul, parce que en plus, j'ai le prénom du premier roi d'Israël, excusez du peu. Je m'appelle Shaoul comme lui. Eh ben moi, le Messie, je vais vous expliquer à quoi il... Merci, oh, c'est fraternel. Ah, c'est de l'eau, ben... Non, je plaisante. Donc, je vais vous expliquer... Paul aurait dit, et c'était dit à lui, moi, le Messie, je sais à quoi il va ressembler. Pas comme toutes ces... je veux pas être méchant, dirait Paul, mais c'est des pauvres types, les types de Galilée qui pensent que l'un d'entre eux, là, qui est sorti de nulle part, ça pourrait être le Messie. Faut vraiment pas avoir lu les textes, faut vraiment pas avoir compris, faut vraiment pas savoir qui est Dieu pour ne pas savoir à ce point-là à quoi ça ressemble un Messie. Moi, je vais vous le dire, à quoi ça ressemble un Messie, aurait dit Paul. Le Messie, forcément, c'est la gloire de Dieu. Donc, s'il apparaît, si on l'avait en face de soi, le Messie, ben, il serait tellement rayonnant de gloire que, mais ça nous rendrait aveugle instantanément. On pourrait pas le regarder sans devenir aveugle. Le Messie, il serait tellement irradiant de puissance que si on l'avait instantanément en face de soi, ben, on serait plaqué au sol. On pourrait pas rester debout. Et puis le Messie, parce que l'autre qui vient de son bled avec son accent galiléen à couper au couteau, il est gentil, mais... Enfin non, il est pas gentil, justement. Il nous sème la pagaille. Mais la première... C'est un détail, mais la première des conditions qui permettraient de le reconnaître, c'est que le Messie, c'est Dieu. Donc, il parle comme Dieu. Donc, il parle hébreu. Donc, s'il parle, il parle pas en araméen, il parle en hébreu. Et il va falloir, parce que c'est tellement structurant de sa personnalité, il est tellement sûr de lui et fier de ça, que c'est incontournable. Donc, quand Jésus va décider de le recruter comme apôtre, et il n'en choisira pas, ça c'est la grâce de Dieu, c'est que il nous a choisis quand même, c'est ce que Manu disait tout à l'heure, il nous supporte quand même, Jésus veut Paul comme apôtre quand même. Et donc, je vais pas dire il va être obligé, parce que Jésus n'est obligé à rien, mais il va s'obliger à apparaître à Paul comme Paul conçoit le Messie, c'est-à-dire tellement lumineux que Paul va devenir aveugle, tellement puissant que Paul va être plaqué au sol. Et il va lui dire, en hébreu, le texte le précise, « Shaul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et effectivement, le fait d'avoir une existence, mais plus qu'une existence, une conception des choses, assise sur le socle de nos fiertés. Alors, il le fait quand même, parce qu'il nous aime plus que ça, mais ça oblige Dieu à nous rejoindre dans nos représentations, qui ne sont pas les siennes. Et Paul s'en voudra toute sa vie, et il dira, moi je suis certes un apôtre, parce que Dieu a absolument voulu que je sois, mais je suis le plus minable des apôtres, parce que jusqu'à ce que Dieu me rejoigne dans mes représentations, j'ai tout compris de travers, et du coup, je l'ai persécuté. Parce que Jésus lui dit, ne lui dit pas, tu persécutes mon Église. Il lui dit, c'est moi que tu persécutes, parce que Jésus s'identifie à l'Église. Et ça, Paul sait que Dieu lui pardonne, mais il s'en souvient pour autant. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas innocent que je sois dans la fierté de qui je suis intrinsèquement, socialement, familialement, enfin professionnellement, etc. Parce que ça oblige Dieu à me rejoindre. Alors que si j'ai ma fierté en lui, et les pêcheurs du lac de Galilée, au moins ils n'ont pas ce défaut-là. C'est-à-dire que, comme on dit maintenant, si on a moins de 20 ans, ils ne se la pètent pas. Et du coup, le Messie peut leur apparaître comme il a décidé d'être, c'est-à-dire un homme parmi les hommes et parmi les plus modestes. Alors, le fait de dire j'ai ma fierté en lui ou j'ai ma fierté ailleurs, ce que je voulais dire ce matin, c'est que ça change tout. Ça change tout. Alors pas complètement tout, puisque encore une fois Dieu nous rejoint quand même, mais il vaut mieux qu'on soit sur son terrain que sur le nôtre. Alors, une des autres conséquences, alors je n'y insiste pas parce que c'est déjà long, mais une des autres conséquences, c'est que quand on est fier en lui, et vous savez maintenant dans quel sens j'utilise cette formule, on n'est pas fier contre les autres. Et ça, c'est important. Parce que quand Paul dit « je suis », et c'est une des raisons pour lesquelles il dit ça, je mets à la poubelle, c'est que quand on dit « je suis juif, pharisien, circoncis, etc. Et zélé, c'est évidemment en se comparant aux autres. Moi, je suis juif. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Moi, je suis citoyen romain. Et alors là, pour le coup, comme c'était distribué au compte-gouttes, c'est comme avoir la Légion d'honneur. Hein, tout le monde ne peut pas en dire autant. Moi, je parle grec et je connais les poètes grecs. Et on peut décliner. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et ça, c'est le problème de l'humain. C'est-à-dire que quand on dit moi j'ai réussi professionnellement, sous-entendu tout le monde n'a pas fait d'études. C'est toujours il y a toujours quelque chose entre guillemets de malsain au sens où cette fierté, pour que ça en soit une, ben, il faut que tout le monde soit Parce que, bon, personne dit « je suis fier d'avoir le permis de conduire hein, », à peu près. Enfin, il y en a qui ne réussissent pas, mais enfin, c'est quand même pas la majorité. Donc, échanger notre fierté contre la sienne, c'est aussi admettre qu'on n'est pas fier contre les autres, mais avec les autres. On est fier ensemble, là, en l'occurrence. Et c'est ce que dit le psaume. Alors, mais j'y viendrai tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que Paul va dire aux Galates cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, mais que tout le monde connaît, c'est que dans ce cadre-là, alors, on n'est pas juif ou grec, même si c'est une réalité. Bien sûr qu'il y a des juifs, bien sûr qu'il y a des grecs, bien sûr qu'il y a des femmes, bien sûr qu'il y a des hommes, bien sûr qu'il y a des hommes libres et des esclaves. Aujourd'hui, on pourrait dire, bien sûr qu'il y a des immigrés et des nationaux. Et moi, je suis français, monsieur, depuis 25 générations. Bon, mais devant Dieu, c'est pas ce qui compte. Et de la même manière que David et Paul font abstraction de cette fierté-là, Dieu fait abstraction du fait de savoir, par exemple, si on est un homme ou une femme. Alors, esclave et homme libre, il n'y a plus beaucoup d'esclaves, c'est vrai. Juif et grec, c'est plus un facteur de supériorité. Mais par exemple, je maintiens, je persiste et je signe, la condition féminine dans les progrès qu'elle a fait doit beaucoup à la pensée chrétienne, même si les féministes s'en défendent, parce que, bah d'abord, il suffit de voir qu'en dehors de, entre guillemets, la chrétienté, les femmes sont beaucoup moins bien traitées que, enfin, à notre, selon notre conception des choses, mais sont en tout cas beaucoup moins égales aux hommes que dans la nôtre, et ce qui a initié ça. Alors, c'est comme pour l'abolition de l'esclavage, ça mettra des siècles avant d'imprégner la société. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce que Paul aura dit il y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni grec, que du jour au lendemain, pouf, ça va s'estomper. Il faudra, l'abolition de l'esclavage, ça va faire son chemin, mais ça va faire son chemin très longtemps. Et la condition féminine, même chose. Mais, ce qui est important, c'est que si on est dans la fierté qu'on a en lui, alors j'ai plus le droit de dire « moi je suis un homme, hein, donc toi cocotte ». Et ainsi de suite. On n'est pas fier contre les autres quand on est fier en lui. Alors tout ça, ça nous... Bon, fier en lui... vous auriez le droit de me dire, c'est un peu une formule. C'est un peu une formule parce que concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, Paul décline ça. Donc, il utilise l'expression, mais il y a un texte qui est intéressant de ce point de vue, c'est la lettre aux Romains, au chapitre 5. Donc, il conclut le chapitre 5 en utilisant cette formule, alors là c'est traduit par orgueil, mais donc vous savez maintenant de quoi je parle, bien plus nous mettons notre orgueil en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Donc il termine comme ça. Mais il utilise juste avant deux fois la formule, une fois pour dire nous mettons notre orgueil, toujours la même formulation, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce que je devrais avoir sur ma carte de visite? Qu'est-ce qui fonde ma fierté? Ma fierté, c'est que il m'a promis que je serai vivant même quand je serai mort. Même après la mort, je serai vivant. Nous mettons notre fierté dans l'espérance de sa gloire. Je suis appelé, et ça change toute ma personnalité et toutes mes représentations. On parle pas assez de l'au-delà. C'est pas un sujet, même dans l'Église, c'est pas souvent un sujet de conversation. Mais on est promis à un après, et à un après où on sera avec lui et comme lui, et du coup en lui. Et ça rejoint ce que je disais. Et ça c'est notre fierté. Ça, c'est notre orgueil, au bon sens du terme. Il nous a choisis pour être avec lui éternellement, c'est-à-dire en permanence. Et il nous a choisis pour nous transformer, c'est là qu'il est question de gloire, pour nous transformer à la ressemblance de son Fils. Et ça, ça change tout. Alors ça, ça se fait pas contre les autres. Moi, je suis chrétien et pas toi. Non, parce que contrairement aux citoyens romains, contrairement à la femme par rapport à l'homme, parce que la femme, elle reste femme, hein, pas le choix. Le citoyen romain, s'il l'est pas, il le sera jamais. Là, cette condition-là, elle est offerte à tous. Donc cette fierté-là, elle ne se fait pas contre les autres, parce que l'autre, il peut aussi bénéficier de cette promesse. Mais le fait de savoir que nous sommes immortels, pas au sens de l'Académie française, mais au sens de la promesse de Dieu qui nous dit que sa résurrection va devenir notre résurrection. Est-ce qu'on a, pour moi la réponse est claire, non. Est-ce que j'ai ça présent à l'esprit tous les jours de ma vie? Est-ce que en me disant, il va me ressusciter quand je serai mort? Et ça, ça doit fonder notre, non seulement notre existence, mais notre personnalité. Et puis, il dit aussi, et ça c'est plus surprenant, vous connaissez le texte, « Nous mettons notre orgueil dans nos détresses même. » Nous mettons notre orgueil, donc toujours structurant notre personnalité, dans nos détresses. Alors, le mot détresse est à prendre au sens large, mais le psaume 34 démontre, s'il en fallait, mais c'est à longueur de page dans la Bible, que pour ceux qui se confient en Dieu, la vie est tout sauf un long fleuve tranquille. Il y a une des promesses que Dieu n'a pas faites, et même il a en creux plutôt promis le contraire, c'est que tout irait bien, merci. Devenez, parce que sinon les églises seraient pleines, bien sûr, hein. Devenez chrétien et vous ne serez plus malade, vous n'aurez plus de problème d'argent. Je le dis un peu de manière légère, mais il y a malheureusement des églises où on essaye de vendre ça. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Hein. Venez chez nous et vous n'aurez plus de problème de pognon. Tu parles. Venez chez nous et vous n'aurez plus de problème de santé, parce que effectivement, on va vous imposer les mains et puis vous repartirez du bon pied et ça sera pas la peine d'aller chez le médecin. Non seulement il n'y a pas de promesse comme ça dans la Bible, mais il y a tout le contraire. Le psaume 34, « J'ai cherché le Seigneur, il m'a délivré de toutes mes terreurs. » Et David sait de quoi il parle. Donc là, c'est traduit par « terreur », mais ça peut être, il y a des endroits où c'est « détresse ». Donc ça, c'est le verset 5. Le verset 7, il n'y a pas besoin d'aller loin. « Un malheureux, a appelé le Seigneur, a entendu, il l'a sauvé de toutes ses détresses. » Le verset 18, il crie, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Et le verset 20, mais ce ne sont que des exemples, le juste, alors là pour le coup on est édifié, le juste a beaucoup de malheurs et à chaque fois le Seigneur le délivre. Le temps m'est compté, donc je vais pas faire une analyse comme je l'aurais souhaité, mais disons que schématiquement il y a deux façons de voir les choses. Donc ça veut dire qu'on ne traverse pas la vie dans un ciel sans nuages. Et d'ailleurs, si on en doutait, ceux qui ont traversé, enfin ceux qui en sont un peu plus loin dans la traversée que d'autres, le savent très bien. C'est que, on pourrait toujours venir me dire qu'une fois que t'es chrétien, t'as plus de problèmes et t'as plus de malheurs et t'as plus de deuil et t'as plus de détresse et t'as plus de contrariété. On me le vendra jamais puisque je sais le contraire. Par expérience. Donc, ça ne fait que confirmer l'expérience de chacun. Donc, il y a deux façons de vivre ça. Et je pense évidemment, en disant ça, à ceux qui parmi nous sont affectés par la maladie ou par tout un tas de problèmes dont je ne vais pas faire le catalogue. Mais je sais qu'ici, tout le monde n'est pas dans une béatitude absolue. Parce que certains ont des problèmes de différentes natures. Il y a deux façons de voir les choses. Je voulais, si j'en avais eu le temps, faire l'analyse de cette thématique chez Adam, d'abord, et chez Job. Parce que Job, il est servi de ce côté-là, Et l'alternative qu'on lui propose, c'est de dire ben, il faut maudire ce Dieu qui t'accable. Et ce que Job ne fait pas. Et c'est moins perceptible chez Adam et Ève, mais la problématique, c'est finalement, et j'allais dire la problématique au niveau de la tentation, c'est est-ce que Dieu est bon ? Est-ce que Dieu veut mon bien ? Dans le jardin d'Éden, le doute s'insinue sous cette forme-là. Est-ce que la préoccupation de Dieu, c'est votre bien ? Ou est-ce que c'est au contraire son bien à lui qui consiste à vous empêcher de devenir comme des dieux ? Et donc, quand il m'arrive un tas de malheurs, est-ce que, et la problématique de Job, c'est ça aussi, est-ce que vraiment, avec tout ce qui me tombe sur la cafetière, est-ce que vraiment je peux encore affirmer que Dieu veut mon bien ? Ben, c'est pas gagné, hein ? Et évidemment, quand on est au creux de la vague, on est tenté de dire, dans le pire des cas, il veut pas mon malheur, mais en fait, il s'en fout. Il me laisse me débrouiller, me dépatouiller face aux aléas de la vie. Mais on m'a bourré le mou avec le fait qu'il prenait soin, machin, etc. On n'en serait pas là. Et c'est vrai au niveau individuel comme au niveau collectif. Il y en a qui peuvent dire, est-ce que vraiment j'en serais là de mes problèmes de couple, ou de santé, ou de finances, ou de relations avec les autres, ou de fâcher avec mes enfants, ou est-ce que j'en serais là si Dieu voulait mon bien ? C'est ça la tentation de Job. Est-ce que Dieu se préoccupe de ça, ou est-ce qu'il s'en fout ? Ou alors, l'autre façon d'aborder les choses, c'est de dire, puisque effectivement à longueur de page de la Bible et tout au long des pages de notre vie, il y a des malheurs, il y a du malheur aussi, pas que, heureusement, mais aussi du malheur, est-ce que ma fierté, elle va être là-dedans ? C'est paradoxal, cette phrase de Paul. Nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes. Et il sait que c'est paradoxal, puisqu'il construit sa phrase en disant, même là où normalement on ne devrait pas dire « ça, j'en suis fier », c'est un des points où on est fier. Et on est fier pourquoi ? Parce que Dieu nous dit, et c'est contenu dans la phrase « le juste a beaucoup de malheurs, mais à chaque fois le Seigneur le délivre », et donc, mais j'ai déjà développé ça dans l'étude d'un psaume précédemment, c'est plutôt que de me laisser tomber malade et de me guérir après, t'aurais mieux fait de me garder en bonne santé. C'était plus simple. Non, c'est pas plus simple. Enfin, c'est plus simple, oui, à vue humaine, mais ce qui nous fait progresser, c'est que la santé, qui est par définition notamment un domaine qu'on ne maîtrise pas, mais c'est vrai aussi des relations, c'est vrai aussi de tous les problèmes qu'on peut avoir. Par définition, les malheurs, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que sinon, on s'en débarrasserait tout seul. C'est la pédagogie de Dieu qui nous apprend, justement, à mettre notre fierté en lui plutôt qu'en nous. Parce que, citoyen romain... culture grecque, tu connais tous les poètes par cœur et religieusement impeccable parce que pharisien, hébreu, machin, t'as l'air malin si t'es sur un lit d'hôpital. Elle est où ta fierté, là ? Ou t'as l'air malin si ton conjoint se barre ? Ou etc. Bon, hein ? Bon. Et donc ça nous apprend à être fiers en lui. Et donc, ceux qui ont traversé ou ceux qui traversent ça, ils peuvent être légitimement fiers parce qu'ils sont plus grands que les autres. Imaginez David sans problème. Imaginez David avec un Saül qui dit « Bon bah ok, tu seras roi d'Israël à ma place, puisque Dieu en a décidé ainsi, le prophète a annoncé, bon bah vas-y, je te cède mon trône, je t'embête pas, j'abdique, et puis voilà. » Est-ce que vous pensez une seconde que ça aurait été le même David, le même roi d'Israël, s'il avait eu aucun problème pour accéder au trône, et si on lui avait foutu la paix, avec tout ce qu'il a traversé, c'est banal de le dire, mais c'est une réalité, il est un autre homme. Il est un autre homme qui dit, moi, le socle de ma vie, c'est Dieu. C'est pas ma royauté, c'est pas mon peuple, c'est pas mon armée, c'est pas mon savoir, c'est pas mon courage, c'est Dieu. Et donc les épreuves par lesquelles on passe, elles servent à ça. Elles servent à nous faire grandir dans la confiance qu'on met en Dieu au lieu de la mettre en nous. Alors, je termine en disant, et ça c'est le verset 4 du psaume, parce que j'ai parlé au singulier, j'ai parlé pour chacun. Mais chacun, c'est pas tous. Et David fait le lien. Au verset 4, il dit « Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom ». Et tout au long du psaume, vous verrez qu'il si vous relisez, vous verrez qu'il insinue une dimension collective. C'est-à-dire que la grâce que Dieu nous fait, c'est aussi de se servir mutuellement de modèle. C'est-à-dire que là, David, il dit « Moi, j'ai eu un parcours atypique, mais pour le moins ». Effectivement, je ne souhaite ici à personne d'être obligé de simuler la folie pour sauver sa peau. N'empêche que, il dit, la conséquence que j'en ai tirée, c'est-à-dire le fait de mettre en Dieu toute ma confiance et d'en faire le socle de mon existence, c'est-à-dire de mettre ma fierté, ou si vous voulez, mon orgueil en lui, ça c'est quelque chose que je peux partager. Ça paraît paradoxal, parce que, par définition, comme on le dit, l'expérience c'est des choses qu'il faut faire soi-même, mais dans la discipline de Dieu, l'expérience des uns sert aux autres. Et donc, vous pouvez être mes modèles sur le terrain de la fierté en Dieu. Je ne prétends pas l'inverse, je ne dis pas « je peux être votre modèle », mais je préfère dire « chacun de vous peut être un modèle pour me montrer ce que ça veut dire. Oubliez la confiance en soi, oubliez la fierté en soi et la mettre dans le Seigneur ».